Accès libre avec Luc Fortin.
Ça va vite entre deux émissions. veux pas. Luc Fortin en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté. Christiane Campagnat va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Elle qui était dimestre et recherchiste pour Accès libre, qui l'a été pour la saison 2019, la portion 2019. Catherine et Anne-Laure l'ont été pour la portion mon série, dis pas automnale. Même les synthèses vocales le disent comme il faut. Ouais, c'est la dernière, alors voilà pourquoi je nomme toutes celles qui m'ont aidé au cours de la saison. Monsieur Laliberté, bonjour!
Bonjour!
On a réclamé les chaussures.
Oh!
Ouais, ouais.
Est-ce qu'on garde ça pour la fin de l'émission?
Non, le punch, en fait, on est entré en chaussures, on est sorti en sandales. Alors, voilà pourquoi on n'a pas réalisé qu'on avait laissé les chaussures là.
donc les chaussures étaient propriété de Monsieur Luc?
Non, pas du tout. Les chaussures étaient propriété d'une directrice de garderie.
OK.
Qui avait été en garderie. Puis le lendemain, elle était sortie de chez nous pour une journée de congé en sandales. Puis,
d'accord.
Mais ce que les gens veulent savoir, c'est qu'on va parler à Ottawa deux fois. Une fois pour C81, une autre fois, je vous le dis dans quelques secondes, on va parler aux gens à Gaspé. Et on va parler de police et de personnes sourdes. Il me semble que tout va vite aujourd'hui. Même le thème semble aller rapidement.
Mais là, quand on se met à présenter
tout, je sais bien, les recherchistes et tout. Puis bon. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps, Sylvia, de demander à Jean-Sébastien de vous demander en privé si on disait Bonaccio ou Bonaccio.
Bonjour, M. Fortin. C'est le premier, c'est Bonaccio.
Bonaccio. Bon, ben, bonjour, Sylvia Bonaccio.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Vous êtes professeur à l'école de gestion Telfer?
C'est bien ça, oui, ici à Ottawa.
De l'Université d'Ottawa. Et, moi, il y a 2-3 semaines, et je ne suis absolument pas un expert, mais on m'a demandé d'écrire dans Sphère Québec sur l'employabilité. Et oui. J'ai écrit que, entre autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens de 50 ans ne sont pas nécessairement plus nombreux à se chercher de l'emploi, qu'à peu près dans tous les groupes d'âge, c'est à peu près le même taux d'employabilité, mais que lorsqu'on était en entrevue, il fallait dire aux employeurs, nous, on est plus fidèles, on est plus loyal, on se donne davantage parce qu'on ne veut pas perdre notre boulot, parce qu'on sait combien c'est difficile, on est un atout pour la vie sociale d'un job. Et ce que je remarque, c'est que vous avez proposé une étude qui, elle, valide tout ça, mais pas juste parce que Luc en a entendu parler en faisant des entrevues de temps en temps. Vous, là, c'est sérieux, votre affaire?
Oui, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos recherches scientifiques. Le but de notre recherche était vraiment d'obtenir une vue d'ensemble des données probantes concernant les préjugés qui sont les plus répandus par rapport aux personnes en situation de handicap, qui se trouvent dans toutes les tranches d'âge. Donc, vous avez commencé en parlant des personnes qui sont plus âgées, mais ouais. On trouve que c'est vraiment les personnes en début de carrière, en fin de carrière et en milieu, on trouve des personnes en situation de handicap dans toutes ces tranches.
Oui, c'est à peu près, je regardais là, autour de 65%, je pense, de personnes handicapées qui sont, au travail environ. Donc, il y a un taux de non-employabilité beaucoup plus grand, évidemment, que chez monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, vous, dans votre étude, d'abord, fallait déterminer quel employeur sonder. Ensuite, fallait déterminer quel employé, j'imagine. Comment avez-vous fait vos choix?
En fait, au lieu d'aller chercher et de mener une enquête auprès d'un petit nombre d'employeurs, ce que nous avons fait dans mon groupe de recherche, c'est d'examiner les données qui existaient déjà dans les sondages gouvernementaux, par exemple le recensement, ainsi que dans la littérature scientifique de plusieurs domaines. Donc, comme vous avez dit, j'œuvre dans une école de gestion, mais mes collègues qui sont spécialisés en santé publique, en sciences de la réadaptation, dans d'autres disciplines, on mène tous des travaux sur l'emploi et les situations de handicap. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce que ces différents domaines ont à dire sur la validité des préjugés qui sont, on doit se le dire, sont toujours répandus.
Ouais. Les préjugés du type, ils vont nous coûter plus cher, ils sont plus lents, donc ils opèrent moins.
Exactement. Donc, si on regarde le préjugé le plus répandu et qui continue à nuire à l'embauche des personnes en situation de handicap, c'est encore le coût des mesures d'adaptation.
Mmh. Et pourtant, Dieu sait que bien souvent, c'est le gouvernement qui paye pour les mesures d'adaptation.
Mmh. En fait, encore plus, bien souvent, les mesures d'adaptation ne coûtent rien.
Ah bon?
Et ce sont les données qu'on trouve soit au Canada, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un mythe de penser que la mesure d'adaptation coûte très cher. La majorité ne coûte rien. Et s'il y a un coût, c'est un coût ponctuel qui est inférieur à 500 $.
Ouais.
Donc, dans la vie d'un employé au sein d'une entreprise, 500 $, c'est vraiment une goutte d'eau.
C'est bien. Comment avez-vous déterminé, par contre, au niveau du handicap? Parce que c'est sûr que selon la limitation fonctionnelle, mm-hmm. les transformations du poste de travail vont varier.
Absolument. En fait, les chiffres les plus intéressants et les plus stables sur ce sujet nous proviennent du Job Accommodation Network, qui est un service de consultation gratuit qui est fourni par le Department of Labor des États-Unis. Donc, okay. on parle de données américaines, mm-hmm. Mais il n'y a aucune raison de penser que ces données-là ne sont pas valides en milieu canadien. Et ce qui est intéressant au niveau de ces données-là, c'est que ce service de consultation fait un suivi des recommandations qui ont été faites à leurs clients depuis 2004. Et il couvre toutes sortes de besoins d'adaptation, que ce soit au niveau physique, au niveau cognitif. Et les données sont vraiment stables au niveau du fait que la grande majorité, encore là, ne coûte rien.
Ouais.
Donc, il ne faut pas penser qu'il y a des grandes différences que le handicap soit physique ou cognitif.
Mais je pense quand même tout haut, là, puis j'essaie de me dire, ouais, mais c'est sûr que si, de temps en temps, un interprète doit venir signer en LSQ pour les réunions, si je dois acheter, je ne sais pas moi, un scanner, puis des synthèses vocales pour Luc, si je dois, il y a quand même des coûts, même si mineurs. Si on parle d'une multinationale, c'est une goutte d'eau, là.
Oui.
Mais si on parle d'une petite une très petite entreprise, mm-hmm. là, c'est autre chose.
Ah ben, c'est sûr que les coûts selon la taille de l'entreprise vont avoir un impact différent. Mm-hmm. Mais encore là, moi, ce que je suggère toujours aux employeurs, c'est de penser aux économies qui entraînent les mesures d'adaptation. Donc,
ouais.
la perte d'un employé productif est extrêmement coûteuse. Quand on pense au recrutement, à la formation d'un nouvel employé, et certaines estimations suggèrent que pour chaque dollar investi, il y a une économie de 40 $.
Mmh. Est-ce que la productivité ou le manque de productivité est encore quelque chose qui surlupine les employeurs potentiels?
C'est encore un préjugé.
Ouais.
Les données que nous avons examinées dans notre recherche suggèrent, en fait, tout autre, que les gestionnaires jugent la performance de leurs employés comme étant bonne et excellente dans la grande majorité des cas. Et nous avons même trouvé des données qui suggéraient que lorsqu'il y avait des différences de performance qui étaient constatées, les employés en situation de handicap étaient en effet plus productifs.
Taux d'absentéisme, parce que, bon, on pourrait penser, et peut-être avec raison, que si j'ai une sclérose en plaques, je connais des amis là, qui travaillent puis qui ont deux visites annuelles hospitalières qui durent à peu près 10 jours chaque fois. Selon le mot MAUX, tu peux quand même avoir des difficultés. Est-ce que le taux d'absentéisme est une préoccupation?
C'est un autre mythe qui n'est pas soutenu par des preuves empiriques.
Ah oui.
Vraiment, quand on regarde sur l'ensemble des employés, les employés en situation de handicap ont souvent un meilleur dossier de présence. Le bémol ici, c'est sauf dans les organisations où les pratiques d'inclusion sont médiocres. Donc, ce sont des organisations où, par exemple, le travail flexible, à horaire flexible n'est pas permis. Et ce sont des pratiques de ressources humaines qui vont avoir un impact sur tous les employés.
Mais je suis vraiment curieux au risque de revenir avec ma question de départ, mais on n'a aucune idée de l'échantillonnage des personnes handicapées qu'on a utilisé pour... Parce que là, vous me dites, ça coûte à peu près rien pour adapter les postes. Il n'y a pas... Ils sont pratiquement jamais... Ils sont pas plus absents que monsieur, madame, tout le monde qui ont aucune maladie. finalement, qu'est-ce qu'ils ont, ce monde-là? Ils sont juste en fauteuil roulant, puis ils sont paraplégiques, puis c'est tout?
En fait, ça revient au préjugé qu'on a en tant que société, mm-hmm. qu'on pense... Il y a tellement de variabilité au niveau des situations de handicap. Et la plupart des employeurs ne le savent pas, mais ils ont beaucoup d'employés qui sont en situation de handicap,
ouais,
mais c'est juste que c'est pas visible.
Oui. Mais c'est pour ça aussi que je me demande si parfois on ne va pas chercher certaines statistiques avec, surtout là, avec l'embauche des personnes qui, soi-disant, ont des limitations fonctionnelles et en ont sûrement pour vrai, mais des limitations moindres que ceux qui ont véritablement des difficultés à convaincre. Exemple, il y a récemment un chercheur de l'Université Laval qui disait, ben si on offrait son CV par vidéo, probablement que si on est handicapé, mais qu'on offre son CV par vidéo, ça passerait mieux parce qu'on pourrait enlever les craintes. Mais moi, de répondre, oui, mais ça dépend de la sévérité du handicap. Il y a peut-être des gens qui, au contraire, vont voir un handicap sévère dans la vidéo en question et vont dire, non, moi, j'aime autant embaucher quelqu'un d'autre.
En fait, c'est très possible qu'on parle d'un employeur à l'autre. C'est sûr qu'on peut toujours tomber sur des employeurs qui vont avoir des préjugés, mais il ne faut pas généraliser non plus que penser que tous les employeurs vont partir de ce point de vue-là. C'est souvent des manques d'informations que les employeurs vont avoir.
Est-ce que l'étude, en terminant, est publique? Est-ce qu'on peut prendre le temps, si on est curieux, de...
Absolument. On a publié l'étude de façon à ce qu'elle soit accessible à tout le monde sans aucun coût. Donc, j'inviterais les gens qui seraient intéressés d'aller sur le site web du groupe de recherche auquel je fais partie, qui s'appelle le Projet canadien sur la participation sociale des personnes en situation de handicap. Et notre site web est le cdpp.ca. Il va y avoir un lien vers cette étude. Donc, elle peut être téléchargée et partagée gratuitement.
Parfait. On va demander à Christiane de mettre ça sur la page de Accès Libre. Merci beaucoup, beaucoup, Sylvia. Je regarde ça ici, le Bonaccio. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.
Vraiment, la soirée, mec. On va y aller pareil. On va faire rien, c'est le dernier, OK? Je prends mon or dans la harpe. Je fais des dollars en jouant du carabre. Mal, ni dur, ni mou. Et j'envoie au ciel ceux qui sont pas trop sous, qui me lancent leur vieux 30 sous en me disant joue. Et je leur souris pour gagner ma vie. Ils me font merci, continue leur bruit. Viennent dans mon dos pour taper sur un dos ou baver sur les noirs du piano bar où je joue chaque soir. I'll remember you, goodbye Honolulu. Un petit peu de tout, je suis un voyou. Quand ils prennent la porte, y a trop de bière entre les nattes. Et je peux plus jouer Foxtrot. Je me paye un blues à la Finger le Doux. Yeah. Yeah. Une grosse baille en or, un beau météore, propendant comme un d'or. Les gens me crient encore. Je suis aux oiseaux, le monde me lance des bravos. J'ai appris par oreille, mais ça me fait des sacrés bonnes veilles. Mais ça me fait des, mais ça me fait des. Bonne paix.
C'est moi qui vous remercie, Robert. Je comprends pas que cette pièce-là ne soit pas plus souvent référencée lorsque vient le temps de parler du répertoire de Robert Charlebois. Moi, c'est une des pièces que j'aime beaucoup de Robert Charlebois, puis on l'entend jamais à Saint-Jean puis à Fête nationale. Bon, on se transporte du côté de Gaspé. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas jasé aux gens de Gaspé. Bonjour Jenny, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bon, Jenny Franqueur, juste quelques questions qu'on identifie vos voix, là. Parlez-moi de votre handicap, vous, tiens.
Moi, j'ai l'ataxie.
OK. Donc, vous êtes en fauteuil ou avec une marchette?
Je suis toujours en fauteuil.
D'accord. Sylvie Bernard, vous, votre situation?
Moi, je fais de la fibromyalgie sévère avec beaucoup d'arthrose, le cartilage qui se dégénère en rapidité.
Donc, en fauteuil également?
Je marche avec une canne, puis les longues distances, j'ai mon fauteuil roulant.
D'accord. Les deux, vous êtes instigatrices d'une pétition des commerces plus accessibles parce que, vous me direz si j'ai mal entendu ou pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun commerce accessible à Gaspé, ça se peut-tu?
Ils sont très rares.
Donnez-moi un exemple d'un commerce accessible qu'on puisse le nommer et le féliciter.
On pourrait dire la plage de quartier, les entrées sont accessibles, mais il ne faut pas dire vraiment aucun, parce qu'on va se faire détester, mais on pourrait dire la majorité.
Ce qui est accessible, j'imagine, c'est plus ce qui est public, ce qui est gouvernemental.
Oui.
Ouais. Le tourisme, si moi je suis handicapé puis je vais aller faire du tourisme chez vous, est-ce que je passe un beau séjour?
Ça dépend si tu es accompagné.
OK.
Si tu n'es pas accompagné, tu n'as pas grand place.
Oui, c'est ça la difficulté, hein? C'est que, bon, on peut se rendre à la mer.
Oui.
Parce que, bon, semble-t-il qu'on peut mettre un couvert de caoutchouc pour permettre aux gens en fauteuil roulant de circuler. Mais ça se limite à ça. Est-ce qu'il y a, savez-vous s'il y a des programmes pour peut-être financer des modifications, des réfections, des constructions?
On l'avait vu sur Internet, le programme PEA.
Oui, oui, du gouvernement.
C'est petit établissement accessible. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si les commerçants de Gaspé sont au courant de ça.
C'est des programmes qui offrent 15 000 $ aux petites entreprises, dont des salons de coiffure, des cabinets de médecins, dentistes ou genre comme ça, qui offrent à aider à rénover pour les personnes à mobilité réduite.
Ouais.
Ils demandent, puis quand ils sont accessibles, ben, après qu'ils ont toutes fait leur démarche, qu'on peut se rendre à leur entreprise, que les toilettes sont conformes, puis que les corridors, tout ça, qu'on peut passer. Là, après ça, ils sont acceptés et ils vont avoir les sous. Mais tu sais, ça n'arrive pas par la mer, le bank, tu as 15 000 $ puis tu fais ce que tu veux.
C'est sûr.
Mais c'est ça. Mais je veux dire, il y en a peut-être d'autres. Nous, on a pu les trouver sur l'Internet, sur le site du gouvernement du Québec. Je ne peux pas croire qu'eux autres ne peuvent pas s'informer, puis ils ne peuvent pas aller plus loin dans leurs recherches. Puis il doit y avoir du monde qui peuvent les aider aussi là-dedans, s'ils veulent vraiment mettre conforme. Et de toute façon, les nouvelles entreprises, les nouveaux commerces, c'est la loi qu'il faut qu'ils se fassent conformes pour les personnes handicapées. Là, eux autres, ils n'ont pas le choix. Mais c'est les anciens commerces qui sont pas en norme. Là, il y a des crédits d'impôt, puis il y a aussi ces programmes-là qui existent pour les aider.
Ouais.
Parce que moi, j'aurais aimé, et qu'est-ce que j'aimerais, c'est que qu'ils soient encouragés et en tout cas.
Est-ce que vous vous sentez
Pardon?
Est-ce que vous vous sentez soutenu dans la région avec votre effort de pétition? Parce que ça a été fait sur une demande, sur une base individuelle. Moi, souvent, je parle plutôt à des organismes de région. Là, c'est assez rare que je parle à des individus qui décident de prendre le taureau par les cornes. Est-ce que c'est parce que les organismes du coin font pas le boulot?
Bien, présentement, je sais que le maire est ouvert à nos demandes, là. Mais il n'y a rien de fait. Là. Tu sais, ils disent « Ah, oh, on va faire ça, on va faire ça », mais finalement, ça se fait pas. Tu sais, il y a toujours quelque chose de plus urgent.
Oui, surtout que j'ai lu dans un texte le maire dire, bon, j'ai pas la citation sous les doigts, là, mais de dire quelque chose comme ben, « Nos trottoirs sont trop petits, il n'y a pas de place, on peut rien faire. »
Oui.
Ça part mal.
Moi, je trouve qu'il n'encourage pas les commerçants tels quels là, à faire quelque chose. Là. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais je ne veux pas partir en guerre contre le maire. Au contraire, je voudrais qu'il s'aille avec nous autres à faire quelque chose. Il y a des plans d'action déjà ouverts en ville, mais on n'a jamais vu faire quelque chose encore. Mais ils sont ouverts. Fait que le 16 de juillet, on rencontre le maire avec... Okay. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec les accès et les stationnements handicapés aussi. Là. Ça rentre tout en ligne de compte, ça.
Y a-t-il des organismes de défense des droits dans votre région?
Ben, il y a l'OPHQ ici.
Ouais.
Mais eux autres non plus,
Mais nous, en fait,
ils faisaient Sylvie? Des choses pour...
Sylvie, vous alliez dire?
Ben nous, on fait partie du CRI qu'eux nous ont aidés à partir ce bébé-là, la pétition, parce qu'on ne savait pas comment du tout à faire une pétition. Puis moi et Jenny, on ne se connaissait même pas avant, mais on se battait pour la même affaire, puis on était tannés de la même affaire. Fait qu'on s'est, on s'est alliés et on... On s'est dit, OK, Jenny, elle est tannée des accès, moi des stationnements parce que j'ai ma voiture. J'en pouvais plus devoir essayer de me battre. Puis oui, je suis vraiment chialeuse des stationnements.
Ben il faut.
Bien, même si je passerais pour la plus tannante de Gaspé, ça me dérange aucunement. Puis même si tout le monde me reconnaîtrait, ça me dérange ça encore bien moins. Je suis tannée de ne pas être capable de débarquer, puis de ne pas avoir de parking, puis de ne pas être capable de débarquer mon fauteuil.
Parce que les espaces réservés sont souvent utilisés par des gens qui n'ont pas besoin d'un espace réservé.
Souvent.
Le maire, la dernière entrevue qu'on a faite, on citait que d'autres villes, eux autres, les Allemandes, par l'agent de la municipalité, leur amende, eux autres, était de 169 $, tandis que nous autres, ici, c'est 30 $. Là, le maire, il dit, peut-être que ce serait une idée d'augmenter le prix de l'amende de la municipalité. Là, les gens disent, ah oui, mais ça n'a pas de bon sens, c'est dispendieux, mais... Vous avez juste à ne pas vous parquer.
Mais oui, c'est illégal.
C'est un stationnement. Ben,
c'est comme ça. Ça commence à être dispendieux là, d'être illégal à Gaspé, là, que les Gaspésiens disent. Hey, c'est particulier. Par contre, en terminant, la chose qui est positive, c'est qu'il y a plusieurs commerçants qui ont quand même accepté d'accueillir votre pétition.
Oui. On ne peut pas dire que les commerçants sont contre nous. Ils ont tout accueilli à bras ouverts notre pétition à côté de leur caisse, dont on remercie aussi.
Mais est-ce qu'ils comprennent que on veut que les bottines suivent les babines, à un moment donné, que quand tu mets la pétition, c'est que tu es d'accord avec le libellé de la pétition, ça veut dire qu'on a droit à s'attendre à ce que ton commerce éventuellement devienne accessible?
Oui, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a plusieurs endroits où on a mis des pétitions que... Justement, ils ne sont pas accessibles, mais ils ont accepté la pétition.
Ouais.
Donc, à quelque part, c'est parce qu'eux autres aussi, ils trouvent que... Tu sais, ils se disent, ouais, c'est vrai que si on mettrait ça accessible, il y aurait plus de gens en fauteuil roulant qui viendraient, tu sais.
Bon, en tout cas, on vous le souhaite vraiment. Puis, bravo, c'est encore plus méritant ou méritoire lorsqu'on est obligé de se battre comme ça sur une base individuelle. Jenny Francoeur, oui. Sylvie Bernard. Puis Sylvie, c'est correct si vous deviendrez la fille la plus connue du coin, là, c'est bien correct.
Bon, ben merci. Je lâche pas, en tout cas.
Bonne chance, puis tenez-nous au courant des suites du 16 juillet avec le maire.
Parfait,
oui, c'est sûr.
Madame Campagna, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous? Yeah.
Oui, merci, c'est gentil. Merci de nous avoir mis en contact avec ces deux dames. C'est
ça pas fait plaisir.
C'est pas évident, surtout quand le maire commence en disant que les trottoirs sont trop... T'sais,
c'est pas une grande ouverture.
Non, quand avant même la réunion, il dit ça, là. Qu'est-ce que vous avez glané pour nous?
Ben, je vais vous parler de tourisme un petit peu, justement, puis ça va commencer avec Gaspé. Il y a un article paru dans le Journal de Montréal qui est intitulé « 5 moyens de rendre l'été accessible pour tous », qui soulignait des initiatives au Québec. Donc, si vous êtes en train de préparer vos vacances. Et justement, la plage de la ville de Gaspé est la première ville balnéaire à munir sa plage d'un tapis en caoutchouc permettant à une personne en fauteuil roulant de se rendre à l'eau sans que les roues de son fauteuil s'enlisent dans le sable.
C'est bien pour dire.
Oui,
ça semble assez évident.
Puis on a une chaise hippocampe de disponible. Alors, vous pouvez aller vous baigner à Gaspé, mais c'est pas sûr que vous allez pouvoir aller au resto après, semble-t-il.
Tu veux pas te baigner à Gaspé? Sac, l'eau est tellement froide. Aïe. Une chaise hippocampe. Il me semble qu'il y a des... Tu sais, ça... En tout cas... Non, j'allais dire ça, c'est une chaise gaspillée. C'est affreux de dire ça, mais...
Bon, ben, d'abord, si vous voulez de l'eau moins froide, on en trouve également à la plage Jean-Doré à Montréal, à celle d'Oka,
les gens de Rimouski.
Saint-Zotique, de Longueuil et quelques autres. Non, entre autres, c'est souvent dans les parcs de la CEPAC qu'on trouve des chaises hippocampes. Vous allez sur le site Kéroule pour savoir les endroits où elles sont disponibles. Il y a le Cartus qui permet de faire des courses partagées. D'ailleurs, demain, Hélène va parler avec quelqu'un des courses partagées à Québec à l'émission au quotidien le matin. Et il y a le verger Gros-Pierre.
On a déjà parlé au Gros-Pierre, mais je ne me souviens plus dans quel contexte.
Qui a une toute nouvelle charrette dans laquelle peuvent embarquer les fauteuils roulants pour pouvoir
les gens dedans aussi.
Et voilà. Et faire de l'autocueillette même. Oui, je pense qu'on devrait leur reparler cet été.
Bien, surtout que les pommes, c'est pas avant quoi, début septembre?
Bon, on va leur reparler au mois d'août.
Bon, on fera ça. Puis sinon, il y a de ça, parce que moi, je peux...
Il y a la maquette.
Fait que je garde l'autre bord. Parce que là, il nous dit, lui, 15 secondes.
Bon.
Ouais. Fait que vous entendez la petite madame qui chante avec le monsieur, là?
Je vais de l'autre côté.
Puis, c'est ça. On s'en va de l'autre côté. Puis, on va aussi parler à Mélanie Bénard. Est avocate, on va parler de ses 81 ans. Et le SPVM, qu'est-il habilité à faire comme intervention auprès des personnes sourdes? C'est à venir.
Écoutez, accès libre.
Jean-Sébastien, pourquoi je te chiale tantôt à cause de la chaise hippocampe?
Ben, il fait froid à Gaspé.
Parce que l'eau est froide à Gaspé.
La plage ici est loin de Rimouski.
Ben non, mais c'est...
Ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Là. Prendre un sourire.
Mais c'est pas de nouvelle là, que l'eau est froide à Gaspé. Là. Hein? Christiane?
Oui. Ben pour le tourisme, il me restait une chose à vous nommer, là, tirée de l'album, l'article de Lise Giguère du Journal de Montréal. On en avait déjà parlé, je pense, que les non-voyants peuvent maintenant explorer l'architecture spectaculaire du stade olympique au bout des doigts.
Spectaculaire. Hein? Et combien cher?
Alors, donc, grâce à un partenariat entre le Parc olympique de Montréal, Tactile Studio et Kéroule, une maquette tactile a été conçue. Elle se trouve dans le hall touristique de la Tour de Montréal, en face de la billetterie. Ah, ça, c'est l'information qui nous manquait la dernière fois qu'on en avait parlé. Par exemple, on n'avait pas le lieu exact.
Ben c'est ça, parce que j'en ai parlé au Capé. Avec Michel, et on parlait à, je me souviens plus là, mais la super fine Caroline de Kéroule. Et elle nous disait ça, qu'il y avait cette activité-là, mais j'ai oublié de ramener l'information ici. Puis c'est pas tout le monde qui est abonné au Capé, qui écoute Accès Libre et vice-versa.
Non, en effet, mais on vous encourage à le faire.
Ben, c'est beau ça,
c'est
surtout
beau,
que c'est la dernière d'Accès Libre.
Oui, c'est sûr, mais on revient. On va revenir.
C'est ce que les patrons nous disent.
Du côté de la France, les associations... droit pluriel, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des barreaux ont fait des démarches auprès des éditeurs de dictionnaires pour faire changer la définition du mot handicap qui était selon les dictionnaires, quelque chose comme désavantage quelconque qui met en état d'infériorité, désavantage souvent naturel, infériorité qu'on doit supporter, chose qui diminue les chances de s'épanouir ou de réussir. Ce qu'on demandait, en fait, c'était de s'inspirer de la définition qu'il y a dans la loi sur l'accessibilité de 2005 et le journal Robert, le journal Le Dictionnaire. Fais un festival du lapsus aujourd'hui. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Mais on attend toujours des nouvelles de Larousse.
Non, mais c'est important, ça, parce que souvent, les gens, on a tendance, quand on veut savoir ce que signifie un mot, à fouiller dans le dictionnaire.
Exactement.
Et je veux dire, la définition que tu m'as lue avant, là, c'est offensant.
Oui, c'est parce qu'elle remonte à l'étymologie
la loi
du
des
mot.
Indiens,
elle remonte à l'étymologie du mot qui vient vraiment au départ des courses où on partait avec un handicap. C'est ce sens-là qui est le sens premier. Des fois, on pense que c'est le contraire, mais donc, il y a eu vraiment, suite aux pressions de ces associations-là, un dictionnaire qui représente maintenant où on en est rendu dans la société.
Ouais.
Et ben, je voulais juste souligner que Daniel Bonnet et Marie
Bernard.
Sauvé,
oui.
À qui on avait parlé.
Oui, nos éleveurs de Cannes.
Voilà, ben, ils sont finalistes pour le prix du public dans le cadre du défi Ose entreprendre. Malheureusement, on ne peut plus aller voter. Ça se terminait le 11 juin.
Okay.
Mais on leur souhaite quand même bonne chance.
Ben, tout à fait. Non, puis déjà qu'on puisse parler d'eux, puis que le public ait jugé pertinent de les mettre en nomination, c'est le fun. En tout cas, je ne sais pas si c'est le public ou qui décide, là, mais c'est quoi? C'est le prix du public?
Ça, c'est le prix du public.
Bon, ben, il me semble que si c'est le prix du public, c'est le public qui doit décider sur qui ils veulent voter.
Oui, on allait voter en ligne jusqu'au 11 juin.
Peut-être je suis naïf. Peut-être c'est des gens qui ont décidé puis qui disent, ben, on appelle ça le prix du public parce que c'est le public qui vote. C'est peut-être juste ça. Hé, hey, Maître Bénard, bonjour!
Bonjour, ça va bien?
Ça va tellement bien, là. Je suis content de vous parler pour vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles.
Ça fait longtemps, puis il y a des bonnes nouvelles.
Bon, Mélanie est contente. OK. Moi, je ne suis pas certain, mais je n'ai pas fouillé C81 comme Mélanie a fouillé C81. Mélanie Bénard, qui est avocate, qui est également militante, qui a travaillé avec d'autres pour mettre sur pied Québec accessible, qui est en faveur d'une loi cadre du genre pour le Québec. On va peut-être appeler ça Q81, je ne sais pas. pourquoi vous êtes contente, Maître Bénard?
Mais moi, je dirais que le projet de loi, mais ça va bientôt devenir loi. On est vraiment à la dernière étape là, de la sanction royale pour ce projet de loi au niveau fédéral, mais c'est censé éliminer des obstacles à travers le pays pour les personnes handicapées dans différents domaines. Alors, c'est semblable aux lois qu'on voit dans d'autres provinces au Canada. Et je trouve que c'est vraiment une étape importante pour les droits des personnes handicapées au Canada.
Bon, c'est pas de mes affaires, mais semble-t-il que vous avez dit à... On peut-tu dire tu, Mélanie? Oui, merci.
Oui.
Semble-t-il que tu as écrit à Christiane que tu avais contribué à l'élaboration de la loi. Sous quelle forme? Je sais que tu t'es pas assis avec Mme Cottrell, là, mais...
Non, ça c'est sûr, mais moi j'ai travaillé avec plusieurs organismes à travers le pays pour organiser des consultations avec les personnes handicapées pour essayer d'établir leurs priorités. Alors, qu'est-ce que cette loi-là devrait contenir, quelles devraient être les priorités?
Okay.
Et là, on a vu le projet de loi, la version initiale qui a été déposée il y a presque environ un an. Et là, on a proposé plusieurs amendements au gouvernement et plusieurs des amendements qu'on a proposés ont été acceptés par le Sénat et par la suite par la Chambre des communes tout récemment.
Les gains majeurs, selon toi?
Mais on va pouvoir porter plainte à un commissaire à l'accessibilité au niveau fédéral lorsqu'on rencontre des obstacles dans différents domaines. Alors, dans la radiodiffusion, le transport par avion, par train, dans les banques, dans la fonction publique fédérale. Alors, il va y avoir des normes précises à respecter pour éliminer et réduire et prévenir les obstacles. Et on va pouvoir porter plainte. Il va y avoir des amendes vont pouvoir être...
Pour vrai?
Oui. Les amendes vont aller jusqu'à, je crois, c'est 250 000 $.
Il y a quelque chose de contraignant dans cette loi-là.
Exactement.
Alors, je pense que c'est ça qu'on doit
célébrer, oui. Alors, mais ça va prendre du temps. Il faut comprendre ça parce que, comme en Ontario, la loi prévoit le développement de normes d'accessibilité dans différents domaines et ça va prendre probablement plusieurs années pour développer chaque norme. Mais je sais qu'ils ont déjà commencé le processus d'embauche pour... c'est un nouvel organisme, l'Organisation canadienne d'élaboration des normes d'accessibilité. Ils ont déjà commencé à embaucher des gens pour cet organisme-là. Alors, ça ne traîne pas, là. Le gouvernement est vraiment...
actif.
Exactement.
J'ai entendu Mme la ministre parler de 2040 comme l'année, disons, ou la période où on pourrait penser que la loi aurait vraiment un effet là, sur la vie quotidienne canadienne, donc disons une vingtaine d'années. Est-ce que les contraintes de ce que tu as lu commenceraient, disons, autour de 2040 ou il y aurait des contraintes préalables?
Ben, on espère fort bien qu'il va y avoir des contraintes avant 2040. Puis ça, c'était en effet un des amendements qu'on avait proposé parce que dans la version initiale de la loi, il n'y avait pas vraiment d'échéancier. Okay. Il n'y avait pas un but, disons, dans telle année, tel nombre d'années, on va avoir réussi à éliminer des obstacles. Bien sûr, c'est juste c'est un but ultime. On ne sait pas si on va vraiment pouvoir atteindre cet objectif, mais au moins, on a vraiment un objectif clair.
Ouais. Est-ce que d'autres gains qui t'ont frappé, qui pourraient même me rendre encore plus de bonne humeur?
Oui, mais on a vu la reconnaissance de la langue québécoise.
L'ASL,
et ça, encore une fois, c'était quelque chose qui n'était pas dans la version initiale. Alors, quand j'ai dit j'ai contribué au développement de la loi, c'était vraiment plus à ce niveau-là de vraiment travailler avec plusieurs organismes et d'autres avocats au Canada pour pousser pour avoir ces amendements-là. Alors ça, c'est vraiment une grosse victoire, je dirais. Pour
Mélanie, toi qui es bonne avec les mots et qui es avocate, là, tu connais la différence entre langue officielle et reconnaissance comme langue? Parce que j'ai beau parler à des sourds, là, je comprends pas la différence. J'ai même fait des entrevues là-dessus, je me questionne toujours.
C'est un peu flou, j'avoue, mais je pense que si c'est une langue officielle, ça voudrait dire que quand tous les documents et même l'éducation devraient être offerts officiellement dans les deux langues, tandis qu'on reconnaît la langue comme langue officielle de la communauté sourde seulement, ça veut juste ça va rendre les choses plus faciles pour que cette communauté-là soit que leurs droits soient respectés. Alors, ça n'impose pas vraiment d'obligation nécessairement pour le pays au complet. Ça ne devient pas une langue officielle du Canada, mais c'est la langue officielle des personnes sourdes.
Mais est-ce que ça a plus d'impact pour eux que, disons, moi, comme Québécois, lorsque M. Harper a reconnu le Québec comme société distincte, où ça a changé absolument rien juridiquement au statut politique québécois ou même provincial ou même individuel?
Je pense qu'on va devoir voir comment les choses vont avec le temps. Mais je sais que Canada, je crois qu'il y a déjà au moins 80 pays à travers le monde, si je ne me trompe pas, qui ont reconnu la langue des signes comme langue officielle des personnes sourdes. Alors, on avait un retard à ce niveau-là, mais reste à suivre l'effet que ça va avoir dans la vie des gens.
D'autres gains avant qu'on arrive aux déceptions?
Mais il y a aussi un nouveau règlement qui a été adopté en lien avec cette loi-là par l'Office des transports du Canada. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais jusqu'à présent, il y avait juste des guides avec des normes, mais des normes qui n'étaient pas obligatoires pour le transport par avion et par train au Canada. C'était juste comme des recommandations que les compagnies étaient censées suivre, mais encore une fois, il n'y avait pas vraiment de pénalité si ces recommandations n'étaient pas suivies. Mm-hmm. Alors ça, c'est un règlement, c'est un peu à part de la loi, mais c'était vraiment inspiré par le projet de loi C-81. Alors ce règlement-là, je crois qu'il est à veille d'être adopté et c'est un autre gain important.
OK. Les choses qui te chicotent?
Bien sûr que 2040, c'est assez loin dans le futur, mais comme j'ai dit, c'est parce que ça va prendre le temps pour développer toutes les normes. On aurait vraiment voulu voir certains mots changer dans la loi parce que la loi n'exige pas le développement de normes d'accessibilité. Ça permet au gouvernement d'adopter des normes. Alors, je crois que c'est là que ça, on va vraiment voir l'importance des élections au niveau fédéral. Le gouvernement libéral semble vraiment être déterminé à faire avancer les choses. Si on voit un nouveau gouvernement conservateur élu, je ne suis pas aussi certaine qu'on va voir vraiment la mise en œuvre efficace de cette loi-là. Alors, on aurait vraiment voulu que la loi oblige le ministère de l'Accessibilité d'adopter des normes, mais présentement, c'est ça. C'est encore une fois un peu flou, mais on voit vraiment... que le gouvernement libéral il y a un momentum, mais il semble être quand même assez dévoué à cette cause.
C'est ça, on a mis le train sur les rails.
Exactement.
Et en même temps, bon, c'est souvent comme dans bien des lois cadres. On a parlé de contraintes là, à 250 000 $ pour je ne me souviens même plus c'était quel item. Là. Mais te souviens-tu, toi?
Mais c'est pour le non-respect des normes d'accessibilité qui vont être adoptées.
Ouais. Mais en même temps, bon, il y a beaucoup de flou dans bien des... Il va falloir surveiller ça, c'est sûr.
Exactement.
Et le temps du militantisme n'est pas terminé.
Non, jamais.
Ouais, ça, c'est ça. Mélanie Bénard, ça a été bien le fun de te parler.
Mais merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt.
Bonne journée.
Pas peur, inactif c'est mieux, sécurité avant les mois, quand le passé nous retient, juger les actes et les effets, mais pas sur nous, sur les autres, qu'on passe notre temps à écouter. Je me suis souvent demandé comment ça se fait, que nos conseillers eux-mêmes souvent ne l'avaient pas fait, dire que le plus dur n'est pas d'écouter, plutôt d'en donner, nos avis sont biaisés, pas parce que l'on veut, juste inconsciemment, inquiétude et peur de nos erreurs, souvent le passé a de drôles d'humeur, réaliser et le faire.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je me suis surpris moi-même à aimer ça cette fin de semaine. Je suis tombé sur du Yao. Je connaissais pas. Et Yao, c'est le gars qui livre le propos durant les refrains. Et Peter Olin est le gars qui chantait. Yao qui va souvent inviter des gens, un peu comme c'est la coutume de plus en plus dans le monde du... C'est du slam, c'est du hip-hop, c'est du rap, c'est du quoi, Jean-Sébastien?
C'était pop, beaucoup, je trouve.
Oui. Non, c'est sûr que c'était pop. Mais plus, c'était plus du pop hip-hop? Que d'autres. Oh oui, c'était plus pop. Bon. OK, il dit que c'est... moi, je suis chialeux. Valérie Laparne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ça me fait plaisir.
Valérie, qui est intervenante à la Maison des femmes sourdes de Montréal, on a demandé à Sarah Houle de nous aider parce que Valérie a besoin d'une interprète. Donc, c'est la voix de Sarah que vous avez entendue et voilà pourquoi les petits délais. Je le disais à Valérie, ça fait longtemps qu'on essaie de comprendre un peu, suite à une dénonciation d'un sourd américain, de difficultés trop souvent appréhendées à travers des arrestations par force policière de personnes sourdes. Puis on voulait savoir comment ça se passe au Québec. Est-ce que, Valérie, vous savez si officiellement les policiers ont une marche à suivre quand ils doivent faire affaire avec une personne sourde? Est-ce qu'on leur a donné une formation?
Dans mon travail à la Maison des femmes sourdes, nous, on travaille avec les victimes, donc on ne travaille pas avec les agresseurs. Donc, à chaque fois que, bon, oui, il y a une victime, on a un protocole avec la police de quartier, notre police de quartier. Donc, quand il y a une femme qui est victime, qui vient à la Maison des femmes sourdes, qui veut faire une plainte, on peut appeler la police de quartier, puis on a une entente avec un agent qui va venir à la Maison des femmes sourdes. Mais vous savez, il y a toujours un délai. De manière générale, les procédures, je ne les connais pas de manière profonde là, sur les agresseurs, mais nous, c'est vraiment, on se concentre sur les victimes. Mmh. Ça fait plus de 10 ans qu'on a un protocole qui est établi avec le poste de quartier. Ailleurs, dans les autres quartiers, les femmes peuvent venir, sont les bienvenues dans notre poste de quartier, à la Maison des femmes sourdes, pour faire plainte au poste de notre quartier.
En même temps, vous êtes dans un cadre... Ben, je ne veux pas dire aseptisé, mais un peu plus officiel, un peu mieux organisé. Vous savez, lorsque la victime arrive, vous avez été formé pour dédramatiser un peu et tout, puis mettre peut-être même l'agent de police en confiance. Dans un contexte où, je ne sais pas moi, je suis chauffeur et je me fais arrêter sur la route. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Si, tiens, je ne sais pas si vous avez une voiture, là, mais si vous avez décidé de faire un excès de vitesse.
Oui, j'ai une voiture.
Bon, si vous faites un excès de vitesse, comment ça se passe?
Ben, faut toujours d'abord s'identifier comme personne sourde, dire aux policiers qu'on est une personne sourde. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà interagi avec des policiers, ça se passe quand même assez bien, mais c'est sûr qu'il faut quand même répéter. On a fait des formations dans différents postes de quartier. On essaie d'éviter que les personnes sourdes soient menottées. Donc, il ne faut pas attacher les mains parce que, bon, les policiers disent non, c'est notre protocole, mais il faut quand même s'assurer qu'on s'adapte. D'abord, rassurer la personne sourde, puis lui permettre d'utiliser ses mains, de les mettre, peut-être les attacher à l'avant pour qu'elle puisse communiquer en langue des signes. C'est sûr que si la personne est agressive, elle est frustrée, elle n'a pas d'interprète, les policiers peuvent sentir que la personne, elle a de l'agressivité, mais réellement, c'est pas que la personne est agressive, elle veut communiquer avec ses mains. Puis quand l'interprète arrive finalement, ben là, la personne sourde, elle peut exprimer qu'elle n'est pas agressive, mais qu'elle a besoin de communiquer avec ses mains. Donc, bon, si moi, je me fais arrêter, par exemple, je vais dire « je n'entends pas », je vais utiliser des gestes plutôt que la langue des signes, je vais pointer, puis là, il va dire « bon, vous avez fait de la vitesse », mais ça fonctionne quand même assez bien.
OK. Maintenant, si j'ai besoin d'un interprète d'urgence, ça peut prendre combien de temps? J'imagine, c'est pas sur appel, là. Le civet n'est pas ouvert 24 heures?
Non, effectivement, c'est pas instantané. Il y a un bureau, il y a des interprètes d'urgence qui sont disponibles, mais c'est les urgences santé. Donc, si on a besoin d'un interprète maintenant, on peut avoir recours au secteur privé d'interprétation. On peut demander au civet s'ils ont personne, mais c'est sûr qu'il faut faire plusieurs appels, essayer de trouver un interprète à la dernière minute, mais c'est sûr qu'il y a toujours des délais. Ça peut être une journée où il y a moins de demandes pour les interprètes, puis par hasard, on peut avoir un interprète qui se déplace assez rapidement, mais ça peut prendre jusqu'à 1 ou 2 jours avant d'avoir un service.
Généralement, si je reviens, disons, à votre types d'interventions plus réguliers, là, c'est-à-dire probablement des femmes violentées ou des femmes qui, du moins, ont vécu des difficultés, que ce soit avec un conjoint ou peut-être un voisin. Est-ce que l'hésitation à porter plainte vient de l'interaction avec la police ou c'est plutôt parce que, en général, la communauté sourde étant petite, tout le monde sait tout beaucoup trop rapidement, puis si je porte plainte, qui sait ce qui pourrait arriver?
Oui, effectivement, la communauté est très, très petite, effectivement. C'est un bon point. C'est long, souvent, avant qu'une personne prenne la décision. C'est pour ça qu'on intervient à plusieurs reprises avec les personnes. On rappelle les droits parce qu'on ne connaît pas nécessairement nos droits. Et puis, ça peut prendre du temps avant qu'on prenne la décision de... Tu sais, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, même un mois ou un an. Ça dépend de la cliente. Ouais. Et puis, quand la personne est prête, ben on va porter plainte. Mais c'est sûr que oui, on peut briser le lien avec la communauté, perdre nos amis, être obligé de changer, aller dans une autre partie de la communauté. Ça peut arriver.
Bon, les histoires d'agression sexuelle, on sait qu'il y a je sais pas comment on appelle le rape kit en français. Je regarde trop de films en anglais, j'imagine. Mais il y a une intervention qui doit être faite... presque de façon assez urgente pour amener ça en preuve dans un procès potentiel. Est-ce qu'à l'hôpital, le personnel est généralement assez bien formé pour recevoir une personne sourde?
Non, dans les hôpitaux, c'est un peu la même situation. C'est pour ça que nous, les intervenantes à la Maison des femmes sourdes, on peut, pendant nos heures de bureau, répondre à ce type de demande-là puis accompagner une femme à l'hôpital. On va appeler le CIVET en urgence santé pour avoir aussi un interprète si possible. Sinon, mais ça va être un interprète privé. S'il n'y a vraiment pas d'interprète, mais on va essayer, moi, l'intervenante, je vais communiquer par écrit, puis après, ouais, on va prendre rendez-vous avec un interprète. Mais effectivement, là, c'est important de faire le dépistage immédiatement pour avoir des preuves. Vraiment, on essaye de se débrouiller toujours malgré tout. On aimerait avoir des interprètes rapidement qui peuvent se déplacer, mais ce n'est pas le cas présentement.
Mais je ne m'y connais pas beaucoup. Est-ce que si ça s'est passé hier soir, vous faisiez mention de durant les heures de bureau, est-ce que ce dépistage-là peut encore être valable en matinée, le lendemain?
On a un délai de 24 heures.
Okay.
Oui, il faut se dépêcher le plus vite possible.
Il y a du jeu.
Oui, effectivement, on a un petit jeu.
OK. Sinon, diriez-vous que ça s'améliore de ce côté-là? Diriez-vous que, en général, que ce soit le personnel est plus accueillant ou au contraire, peut-être que l'accompagnement, à défaut d'avoir un personnel plus adéquatement formé, au moins l'accompagnement auprès des personnes sourdes est plus présent en cas de situation d'urgence?
Oui. L'accompagnement, on est toujours là, nous, les intervenantes, pour répondre aux besoins. C'est sûr que, bon, à l'occasion, on peut déjà être occupé. Disons que c'est ma cliente, elle va peut-être aller avec une autre intervenante. Et puis, on fait aussi partie de la table de concertation qui sont au courant de nos procédures. Puis, on fait souvent des formations là, à différents endroits.
Quel type de table de concertation s'agit-il?
En agression sexuelle.
Ah oui, okay.
Nous, on participe à la table de concertation. Donc, il y a d'autres intervenantes qui peuvent être au courant de l'importance des procédures puis des démarches à faire.
Mm-hmm. J'imagine qu'un jour, il y aura une entrevue à faire sur... parce que là, on parle de l'encadrement, mais sur l'agresseur ou la personne, puis qu'est-ce qui arrive, puis pourquoi on hésite. Parce que j'ai ouï dire que c'est peut-être plus... C'est encore moins courant dans la communauté sourde de porter plainte que dans la communauté entendante. Déjà que souvent, les personnes agressées hésitent à porter plainte, semble-t-il que c'est encore plus difficile chez les sourds.
Oui, effectivement, exactement. La communauté est tellement petite, puis on se connaît, tout le monde connaît tout le monde dans la communauté. Donc, si je fais une plainte, puis après je retourne dans un événement de la communauté, mais on devient, on n'a pas, tu sais, on se dit, est-ce que je dois quitter la communauté? Puis, les autres personnes de la communauté ne savent pas nécessairement notre historique, l'historique de l'agresseur, puis l'historique de la victime. Puis, il peut y avoir des appuis de part et d'autre. Donc, ça peut être très difficile, effectivement.
Ouais. En même
c'est
temps,
pour ça là, que vraiment, c'est important que nous, on éduque la femme à connaître ses droits, puis elle va pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, puis en connaissance des conséquences. Il faut qu'elle fasse son propre choix en toute connaissance. Des fois, il y a des femmes qui choisissent de ne pas porter plainte, puis on reste respecte leur choix, mais on est là pour les appuyer puis continuer à intervenir.
Ouais.
C'est tellement beaucoup. Variable.
Merci d'avoir été là, Valérie Lapalme.
Au plaisir, merci de l'invitation.
Valérie, qui est intervenante à la Maison des femmes sourdes de Montréal, interprétée par Sarah Hull. Merci, Sarah. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup à Christiane. Sniff, sniff. Oui, on va sûrement parler de handicap à MLT, mais quand même, on aime bien Accès Libre avec sa tâche particulière. On prend congé, nous, pour les deux prochains lundis, puisque c'est férié. Puis on revient, Christiane et moi, pour MLT. Mais évidemment que tout continue comme d'habitude ici.